Décryptage. Anne Corpet.
Le coup d'envoi de la prochaine Coupe du Monde de football sera donné le 21 novembre prochain et c'est le Qatar qui accueillera l'événement, une première au Moyen-Orient. 8 stades abriteront la compétition, dont 6 viennent d'être construits, tous plus majestueux les uns que les autres, tous climatisés. Mais les ouvriers qui ont travaillé sur ces chantiers n'ont pas bénéficié de l'air conditionné. Plus de 35 000 migrants ont bâti les enceintes sportives, mais aussi les infrastructures, dans des conditions infernales. Jusqu'à ce que, sous la pression internationale, l'Émirat décide de mettre en place quelques réformes pour améliorer leur sort. Elles sont entrées en vigueur tardivement, n'ont pas éradiqué les abus de certains employeurs. Selon une enquête retentissante du Guardian l'année dernière, plus de 6500 migrants venus de 5 pays d'Asie sont morts au Qatar depuis 2010, soit environ 12 travailleurs par semaine. Aujourd'hui, Décryptage soulève la pelouse impeccable des stades Qatari pour s'intéresser au sort de ceux qui les ont construits. Et avec nous en studio pour parler des conditions de travail des migrants au Qatar, Quentin Müller, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, vous avez réalisé plusieurs enquêtes sur les conditions de vie de ces travailleurs migrants et vous êtes l'auteur d'un livre à paraître, Les esclaves de l'homme pétrole, ce sera aux éditions Marchiali. Alors avant de commencer, on va écouter deux petits sons, vous allez l'entendre, hein, ces deux extraits sonores qui ne racontent pas la même histoire. D'abord, la réaction de Didier Gomez d'Arosa, sélectionneur de la Mauritanie, quand il a découvert le stade Al Bayt à l'occasion de la Coupe arabe, un tournoi régional, sorte de prélude, un an avant la Coupe du Monde. Il était au micro de notre envoyé spécial Hugo Moissonnier.
Exceptionnel hein, en termes de pelouse déjà, le vestiaire est incroyable. Ça donne beaucoup d'enthousiasme hein, quand on voit des beaux stades comme ça. De tout cœur, j'espère qu'il y aura de grosses affluences hein, parce que ces stades-là méritent des stades qu'ils soient pleins. Vraiment, chapeau.
Et sans transition, ce témoignage recueilli en 2013 par Lakshmi Lotha, 3 ans après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Elle a interrogé Shanmohan Raja, un Sri Lankais de 40 ans, venu travailler sur les chantiers. Il partageait sa chambre avec 5 autres personnes.
Ici, le soleil cogne aussi fort que mon corps en souffre. Je dois aller à l'hôpital très souvent. Si je ne travaille pas un jour, ma boîte ne me paye pas 2 jours. En arrivant ici, notre vie a changé. Nous sommes devenus des poupées. On ne peut pas bouger de la zone industrielle. Quand nous retournerons au Sri Lanka, nous retrouverons notre âme.
Alors, Quentin Müller, il faut dire que le Qatar affirme que d'énormes progrès ont été faits. Après ce type de témoignage, il y a eu beaucoup de réactions. Est-ce que les migrants sont toujours des poupées, comme le dit Shanmohan Raja?
Alors oui, ils sont toujours des poupées, je dirais plus, sont des machines. On considère que ce sont des machines, réellement, une machine de travail, des robots. Moi, j'ai eu ce doute. Est-ce que les travailleurs immigrés sont toujours aussi mal traités au Qatar? Parce que je me suis rendu dans un premier temps dans les bureaux de l'Organisation internationale du travail, ILO, et eux m'ont vanté le fait que le Qatar avait fait beaucoup de progrès.
Ils ont ouvert leur bureau en 2017, voilà, hein, c'est-à-dire quand même quelques années après le début des travaux.
Voilà, et ça a été une avancée que le Qatar a vantée. Et ILO m'a dit, voilà, il y a telle loi qui sont passées, aujourd'hui les travailleurs ils peuvent aller devant la justice s'il y a un problème avec leur employeur, etc., etc. Et quand je suis sorti de leur bureau à Doha, j'ai eu des doutes. Et je me suis dit, mais bon, peut-être qu'il y a réellement eu des avancées sur place. Donc je suis allé dans la zone industrielle que décrit le Sri Lankais. C'est une zone qui est située au sud de Doha. Et là, on est très, très loin vraiment de l'urbanisme idyllique de la capitale, qui est magnifique, hein, avec ses grands buildings, etc., les stades. Et on est dans une zone où les usines, les machines et les hommes sont stockés au même endroit. Les gens se shootent à la drogue et à l'alcool pour oublier leur cadence de travail. Et quand on va dans cette zone-là, donc il n'y a que des travailleurs asiatiques et africains qui sont des ouvriers, des agents de sécurité, enfin des gens qui sont très mal payés. Quand on se rend dans ces zones-là et on discute avec les travailleurs nous racontent que rien n'a changé dans les faits. Donc c'est-à-dire que les primes ne sont pas payées,
Oui, parce qu'il faut le dire, parmi les réformes adoptées par le Qatar, il y a l'établissement d'un salaire minimum, par exemple.
Alors ça, la rehausse d'un salaire minimum, oui. Donc on est à peu près 1000 Qatari rial par mois, c'est à peu près 230 euros, donc ce qui est quand même assez faible. Avec un minimum pour allouer à la nourriture par jour, donc c'est 2,50 euros, j'avais calculé par jour. Donc, ce qui est extrêmement peu, surtout au Qatar, pour se nourrir, bah, pour avoir au moins 3 repas. Et donc, tous les travailleurs me racontent que rien n'a changé dans les faits, en fait. Les entreprises se comportent toujours aussi mal avec eux, les considèrent toujours comme des robots, comme des pions qu'on peut changer, interchangeables. Et donc, les salariés souffrent toujours autant. Et rien n'a changé, en fait.
Et ce système de la kafala qui met sous tutelle complètement les migrants et qui a été officiellement aboli en septembre 2020, c'est-à-dire 5 ans après que le Qatar s'est engagé à le faire disparaître. D'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est la kafala et est-ce que ça a vraiment disparu ?
Alors, le système de kafala, il existe dans tout le Golfe, et, y compris aussi au Liban et en Jordanie. C'est un système qui, le patron, en fait, est le sponsor du travailleur étranger. Et donc, le travailleur étranger n'a pas le droit de quitter le pays sans informer son patron. Il n'a pas le droit de changer de travail sans avoir l'accord de son patron. Enfin, il y a tout un tas de droits que le travailleur n'a pas à sa disposition. Et c'est son supérieur hiérarchique qui décide pour lui et qui le sponsorise. Et souvent, c'est lié au passeport. Souvent, le patron a le passeport entre ses mains. Et donc, le travailleur ne peut pas avoir une pleine liberté de ses mouvements et de sa carrière professionnelle parce qu'il y a ce système. Système de la kafala. Et donc le Qatar a déclaré récemment avoir aboli ce système-là, mais dans les faits, ce n'est pas vrai.
C'est-à-dire que les migrants que vous avez rencontrés n'avaient pas leur passeport en main,
Les travailleurs n'avaient pas toujours leur passeport en main, évidemment. Les travailleurs ne pouvaient pas changer à leur guise de travail, comme, ça avait été, comme le Qatar, normalement, prétend s'y être engagé. Et donc, aujourd'hui, les travailleurs ont toujours... finalement l'obligation de demander à leur employeur s'ils peuvent changer de carrière. Par exemple, moi j'ai rencontré des agents de sécurité qui venaient d'Ouganda ou du Kenya, qui avaient des qualifications, des diplômes de professeur, de sport, etc. Et qui souhaitaient rejoindre par exemple une salle de fitness pour être professeur de sport, et c'est un peu plus valorisé, un peu plus valorisant d'être professeur de sport que d'être agent de sécurité. Et certains demandaient à leur entreprise de pouvoir changer de travail. Ils avaient été embauchés par l'autre entreprise, mais on leur demandait toujours ce ANOC, ce papier qui fait que ils devaient avoir l'accord de leur employeur pour changer de profession. Et ça, ils peuvent pas, s'en dépêtrer. Et s'ils veulent aller devant la justice, parce qu'ils ont le droit. Eh bien, ça prend des mois, voire des années, avant d'obtenir gain de cause. Mais pour un travailleur asiatique ou africain, l'important, c'est d'envoyer tous les mois un salaire à la famille. Et ils n'ont pas d'épargne pour attendre des mois sans avoir de salaire. Et donc, attendre que la justice convoque l'employeur qui est en porte-à-faux. Et ça, les entreprises le savent très bien. Et c'est pour ça que, finalement, elles n'appliquent pas la loi qatari.
Alors, dans votre livre Apparaître, dont vous m'avez gentiment communiqué des extraits, vous évoquez aussi la question de l'eau potable. Les travailleurs n'ont pas accès à de l'eau de bonne qualité ?
Mais c'est une question dont on parle très peu et je suis assez étonné parce que c'est une question majeure, c'est-à-dire que les travailleurs asiatiques et africains, on leur fournit évidemment de l'eau au quotidien et surtout sur les chantiers pour boire, et cette eau n'est pas de l'eau potable. C'est pas une eau, on leur fournit pas des bouteilles d'eau, c'est une eau qui vient soit du robinet, soit de je ne sais où, mais c'est de l'eau qui a été désalinisée dans des entreprises qui sont prévues à cet effet. Et donc c'est de l'eau avec des produits chimiques, avec aussi un taux de salinité qui est beaucoup plus élevé que la moyenne, et ça développe des maladies rénales importantes chez les travailleurs, parce que moi je me suis du coup rendu au Népal, on a rencontré beaucoup de spécialistes des maladies rénales au Népal qui nous disaient que tous les travailleurs qui revenaient des pays du Golfe avaient, et notamment du Qatar, avaient des maladies rénales importantes. Donc beaucoup de travailleurs finalement rentrent au Népal et ils meurent un an après, deux ans après, ou alors arrivent et espèrent avoir une greffe de rein et ne l'obtiennent pas et meurent. Et ça, ce sont des chiffres qui n'apparaissent pas dans les chiffres que le Guardian, par exemple, a révélés.
Et chiffres que, d'ailleurs,
de mortalité.
Chiffres de mortalité qui sont, même ceux du Guardian sont contestés. L'OIT, l'Organisation du Travail, dont vous parliez un instant, a calculé, elle, que sur un an, en 2020, il y avait eu 50 morts. Le comité d'organisation a comptabilisé 39 décès depuis le début des travaux. Alors, comment s'y retrouver ? C'est possible d'avoir une estimation fiable ?
Alors non, c'est difficile parce que aussi, il n'y a pas d'autopsie qui sont réalisées sur les corps des travailleurs immigrés. Et donc, par exemple, quelqu'un qui meurt dans son sommeil, un travailleur qui meurt dans son sommeil, eh bien, le Qatar va noter sur son cercueil, quand il va être rapatrié dans son pays, mort d'une cause naturelle, ou alors mort dans son sommeil.
Justement, Amnesty a rendu, l'ONG Amnesty a rendu un rapport le 19 mai dernier sur les atteintes aux droits de l'homme des travailleurs au Qatar. Et Lola Schulman, chargée de plaidoyer chez Amnesty International France, évoque cette question des décès. Elle était interrogée par Hugo Moissonnier.
On a documenté des cas de travailleurs qui sont sous des chaleurs extrêmes. Quelquefois, c'est plus de 40 degrés. Et évidemment, ça a conduit à ce qui a été aussi beaucoup mis en avant, c'est-à-dire des décès à cause de leurs conditions de travail. Des hommes de moins de 40 ans qui sont en bonne santé, qui viennent du Bangladesh, du Népal, et qui, du jour au lendemain, décèdent. Il y a écrit sur leur certificat de décès « cause naturelle » ou « problème cardiaque ».
Alors, cause naturelle, c'est ce que vous disiez, mais c'est important, la cause du décès, ça a un impact pour...
Évidemment, ce sont la cause du décès. Si les autorités qatariennes ne pratiquent pas d'autopsie, bon, c'est pour des questions financières, ça leur coûte trop cher pour des travailleurs qu'ils ne considèrent pas du tout. Et puis, c'est surtout la bataille des chiffres. On rentre dans la bataille des chiffres, c'est-à-dire que ces gens qui sont morts d'une cause naturelle, ils ne sont pas morts sur les chantiers. Par exemple, quelqu'un qui a eu un travailleur qui a eu un choc à la tête... ou alors qui travaille depuis 9 mois, j'en ai vu, hein, sans aucune vacance ou congé, ou jour de congé hebdomadaire, qui fait un infarctus dans sa chambre, eh bien, on ne va pas prendre en compte sa mort-là, sa mort, puisque c'est une mort qui s'est faite hors du chantier. Et donc, c'est cause naturelle automatiquement.
Et donc, par ailleurs, aucune indemnisation, aucune responsabilité de l'employeur.
Évidemment. Moi, quand j'étais dans les familles au Népal, ces familles qui sont très pauvres, qui viennent de la ruralité, elles me disent que, voilà, déjà, les entreprises ne les préviennent pas toujours que leurs maris sont morts. Donc, elles l'apprennent soit sur Facebook, soit via un collègue d'un collègue. Et les indemnités n'arrivent pas, parfois. Les entreprises ne versent aucune indemnité lorsque un travailleur meurt au Qatar. Et donc, on a l'impression que ces gens, parce que ce sont des hommes qui ont une vie très courte, hein, finalement, jusqu'à 30, 40 ans. On a l'impression qu'en fait, ils sont venus au Qatar seulement pour servir le Qatar et ils sont morts pour ça. Enfin, ils ont passé une majeure partie de leur vie et les belles années de leur vie au Qatar et ils en sont morts et point à la ligne, il n'y a rien d'autre.
Alors, il y a aussi les blessés. Lors de votre enquête, vous avez notamment rencontré un chauffeur de camion qui a été blessé sur son chantier. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? L'entreprise qui l'emploie prend en charge ?
Alors, c'est un grand classique aussi des abus qui sont faits aux travailleurs. C'est-à-dire que quand ils sont blessés sur leur lieu de travail, là, c'était le cas de Krishna qui apportait du matériel pour un stade de la Coupe du Monde. Eh bien, il a eu un accident de camion. Son pneu a explosé et sa jambe était très grièvement blessée, à tel point qu'on a pensé à l'amputer. Bon, il a été alité et opéré pendant 3 semaines au Qatar. Son entreprise lui a dit « t'inquiète pas, on paye les frais médicaux » comme c'est prévu dans la loi qatari. Et donc, au bout d'un moment donné, on lui a dit « bah, on va te payer les frais médicaux, mais tu vas aller au Népal puisque ça nous coûte moins cher ». Donc lui a suivi, il est parti au Népal et quand il est rentré, il s'est rendu compte que ses congés qu'il n'avait pas pris et ses fiches de paye, eh ben, on lui avait déduit tous les frais médicaux au Qatar. Et bien sûr, les frais médicaux au Népal n'étaient pas non plus payés. Donc il a dû vendre ses terres pour se soigner et pour retrouver l'usage de sa jambe. Voilà. Et donc ça, c'est un grand classique. Quand j'ai été dans la zone industrielle également, j'ai vu bon nombre de travailleurs qui étaient alités dans leur dortoir et qui étaient blessés parce qu'ils ne pouvaient pas reprendre leur travail et ils ne pouvaient pas se soigner non plus parce que les entreprises refusaient de payer leurs soins.
Et bien sûr, ils n'étaient pas payés pendant qu'ils étaient alités.
Exactement. Donc c'est un cercle vicieux.
Alors, vous avez aussi rencontré un agent de sécurité kényan, Malcolm Bidali, et lui a tenté de dénoncer, a dénoncé sur les réseaux sociaux un peu les conditions de travail qu'il affrontait. Et il a été emprisonné. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire ?
Alors, Malcolm Bidali, c'était effectivement un agent de sécurité. Et lui, en fait, il était chargé... Enfin, il avait beaucoup de caméras, en fait. Il regardait sur un écran ce qui se passait. Et donc, il voyait ses collègues plantés dehors sous une chaleur infernale en plein été, alors que c'est interdit aussi par la loi qatari d'être de 11h30 à 15h30. C'est interdit de travailler dehors en heure d'été.
En raison de la chaleur.
Voilà, en raison de la chaleur qui peut monter jusqu'à 50 degrés quand même. Voilà. Et donc, il voyait ses collègues, etc., quand même travailler dehors, rester planté là. Et donc, et puis, il vivait dans des conditions abominables, les puces de lit, les climatisations qui ne fonctionnent plus. Enfin, voilà. Donc, lui, il a dénoncé ça en écrivant des billets anonymes pour un site Infomigrant. C'est pas Infomigrant, mais c'était un site dédié aux travailleurs immigrés dans les pays du Golfe. Et donc, il écrivait des billets sur ça. Et donc, les autorités qataries, puisque ces billets faisaient du bruit, se sont mises à chercher, à traquer qui était cet agent de sécurité. Enfin, lui ne signait pas de son nom. Donc, ils ont fini par hacker son téléphone et ils l'ont arrêté. Et il a été interrogé pendant 3 semaines, incarcéré pendant 3 semaines. Lui me racontait sa détention. C'était une petite cellule avec de la lumière pendant 24 heures allumée. Et donc des interrogatoires qui étaient durs, pas violents, mais qui étaient intenses. Et je pense que s'ils n'ont pas été violents, c'est parce qu'il y a eu aussi un grand barouf médiatique autour de son arrestation, justement parce qu'il travaillait pour des ONG. Et donc les ONG, je pense, l'ont sauvé. Mais il y a beaucoup d'histoires aussi de travailleurs immigrés qui me racontent que certains travailleurs qui filment des accidents de travail, qui filment des exactions de leur employeur, disparaissent. Donc lui, Malcolm Bidali, je pense, a été sauvé du fait de son travail avec les ONG et du travail des ONG pour rendre son cas médiatique.
Il a quand même dû plaider coupable pour être libéré.
Il a dû plaider coupable.
Et les ONG ont payé l'amende à laquelle il a été condamné. Alors dans son rapport, Amnesty International dénonce les responsabilités sur une décennie de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, dans ses multiples abus et violations graves et généralisées des droits du travail. Quelle a été l'attitude de la FIFA depuis le début des chantiers ?
Alors, donc le Qatar en fait a diligenté dès le début de l'organisation de la Coupe du Monde ce qu'on appelle le Supreme Committee. C'est une espèce d'organisation publique qui est là pour vérifier que sur les chantiers de la Coupe du Monde tout se passe bien pour éviter qu'il y ait des scandales. Voilà. Donc là, il y a des Britanniques qui ont travaillé avec les Qataris là-dessus et donc certaines entreprises étaient estampillées Supreme Committee. Ça veut dire qu'en termes d'éthique, on était bon. Sauf que ces entreprises ont souvent des fournisseurs ou des entreprises pour lesquelles elles délèguent certains travaux. Et donc ces entreprises-là, des entreprises du Supreme Committee, elles étaient moins vertueuses. Et donc c'est là que sont apparus des graves problèmes de droits de l'homme, etc., qui ont explosé et qui ont été révélés par certains médias et certaines ONG comme Amnesty. Et donc la position de la FIFA, c'est de dire, mais il y a le Supreme Committee qui se charge de surveiller ça. En parallèle, le gouvernement qatari a voté des lois et donc les choses s'améliorent, tout va mieux. Et Gianni Infantino, le président de la FIFA, vit aujourd'hui au Qatar. Donc on voit bien qu'on est dans de l'immobilisme plus que dans de l'action pure. Voilà.
Merci Quentin Müller. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, que votre livre « Les esclaves de l'homme pétrole » va sortir avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Ce sera en octobre prochain. Merci à Yann Bourdelas qui a réalisé cette émission et à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à la préparer, ainsi qu'au service de documentation et à la Sonothèque de RFI. À demain.